Vous écoutez, on lit pour vous.
La COVID accélérait le vieillissement des vaisseaux sanguins des femmes. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 2 octobre 2025 dans Le Devoir. Une infection à la COVID-19 semble faire vieillir prématurément les vaisseaux sanguins des femmes, mais pas ceux des hommes, ont constaté des chercheurs de l'Université Laval dans le cadre d'une vaste étude internationale. Cet accroissement de la rigidité vasculaire est comparable chez les femmes qui ont été malades au point d'être hospitalisées à l'unité des soins intensifs à celui qui surviendrait naturellement sur une période de 10 ans. On pensait que tout le monde se comporterait de la même façon. On pensait que tout le monde allait avoir un vieillissement vasculaire prématuré comme séquelle de la COVID, a dit le professeur Mohsen Agarazi de la Faculté de médecine de l'Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Mais on a été surpris de voir que chez les hommes, ça n'avait absolument aucun impact, alors que chez les femmes, ça se traduisait par un vieillissement vasculaire accéléré. Le professeur Agarazi et sa collègue Catherine Fortier ont collaboré à cette étude qui a examiné la rigidité vasculaire de quelque 2100 personnes réparties dans 18 pays. L'échantillon était composé de 3 groupes de sujets qui avaient eu la COVID-19. Les premiers n'avaient pas été hospitalisés. La plupart avaient eu une infection légère. Les deuxièmes avaient dû être hospitalisés dans une unité de soins réguliers pour infection de sévérité moyenne. Et les derniers avaient été admis à l'unité des soins intensifs pour une infection sévère. Un peu moins de 400 personnes n'ayant jamais eu la COVID-19 ont servi de groupe témoin. Rigidité vasculaire. En mesurant la vitesse à laquelle l'onde de pouls se propage dans l'aorte, le plus gros vaisseau sanguin du corps, les chercheurs ont découvert que cette vitesse était plus élevée chez les 3 groupes de femmes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 que dans le groupe témoin, ce qui témoigne d'artères plus rigides. Les différences correspondaient à un vieillissement vasculaire de 5 ans pour les groupes infection légère ou infection d'intensité moyenne et de 10 ans pour le groupe infection sévère. Aucune différence n'a été observée du côté des hommes, ce qui est possiblement attribuable au fait que les femmes présentent habituellement une réponse immunitaire plus robuste aux infections, ce qui se traduit par une inflammation plus importante et potentiellement des dommages plus importants aux vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont tapissés d'une monocouche de cellules qui sont un peu l'interface entre le sang et le vaisseau sanguin, a expliqué le professeur Agarazi. Ces cellules-là sont attaquées par le virus de la COVID et quand elles sont malades, ça génère une dysfonction. On ne sait pas si la rigidité vasculaire des femmes infectées est permanente, mais même un an après l'infection, la rigidité moyenne des femmes qui avaient eu la COVID-19 n'était pas redescendue au niveau de celle du groupe témoin. Même une fois l'infection résorbée, il pourra donc subsister des cicatrices qui affecteront la rigidité vasculaire et conduiront à une surcharge du travail cardiaque et à une pression sanguine plus élevée, pouvant affecter le cœur, le cerveau et les reins, a-t-on expliqué par voie de communiqué. Une rigidité de l'aorte peut avoir des conséquences au niveau du cœur, a dit Mme Fortier. Le cœur va devoir travailler plus fort, la pression va être élevée, donc il peut y avoir des conséquences, oui, sur le cœur, mais aussi sur les autres organes. Les chercheurs estiment conséquemment qu'une infection à la COVID-19 devrait être prise en compte, au même titre que l'hypertension artérielle, le diabète, le taux de cholestérol ou les habitudes de vie, lorsqu'on évalue le risque cardiovasculaire d'une femme. Ils soulignent ainsi que de saines habitudes de vie, comme l'activité physique, une alimentation équilibrée et la prise de la médication prescrite, notamment pour l'hypertension, peuvent aider à réduire les risques. Les conclusions de cette étude ont été publiées par l'European Heart Journal. C'était « La COVID accélérait le vieillissement des vaisseaux sanguins des femmes », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 2 octobre 2025 dans Le Devoir.
Québec a les moyens d'abolir les inégalités. Un texte de Karine Bénézet de l'Itinéraire, paru le 24 janvier 2026 dans la presse. Québec a-t-il vraiment les moyens d'éradiquer la pauvreté et d'abolir les inégalités de richesse? Pour Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire des inégalités, la réponse est oui. Quelques chiffres suffisent à Geoffroy Boucher pour nous démontrer que le Québec a les moyens de faire de la pauvreté une histoire ancienne. le Québec est une société riche, affirme sans détour l'économiste, avant de se lancer dans un bref calcul qui démontre le tout. On appelle ça le déficit humain. Pour que l'ensemble des Québécois puissent se payer un panier d'épicerie décent, nourriture, logement, vêtements, transport, etc., le manque à gagner, en 2023, était de 4,7 milliards. Un gros montant? Tout est relatif. Il ne représente que 3,1% du budget du Québec, avance le spécialiste des inégalités de richesse. Il semble d'autant plus infime lorsqu'il est comparé au surplus de ressources cumulées par les Québécois qui ont les moyens de se payer plus d'un panier de consommation. Eh bien ça, c'est 168 milliards en 2023, soit près de 36 fois plus que le manque à combler. Ce coût assumé par les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de base, on appelle ça le déficit humain. Au sommet de la distribution, le 10% le plus riche peut se payer 4,5 paniers de consommation, alors que 10% le plus pauvre ne peut s'en payer que 0,6, dit Geoffroy Boucher. Concrètement, en 2023, la redistribution de 3% de ces 168 milliards de trop dont disposent les plus aisés de la société québécoise aurait permis au tiers des Québécois locataires de ne pas avoir à choisir entre se nourrir ou payer un loyer. Un exemple parmi tant d'autres. Une société à la vision court-termiste. Si les ressources étaient parfaitement et équitablement réparties dans la société, en 2023, en moyenne, tout le monde au Québec aurait eu la possibilité de se payer 2,1 paniers de consommation, calcule Geoffroy Boucher. Mais les ressources ne sont pas équitablement réparties. Et c'est là que le bât blesse. Pourtant, une telle redistribution s'est déjà vue au Canada. Plus précisément, pendant la pandémie de COVID-19, rappelle l'expert. Les gouvernements du Canada et du Québec voulaient s'assurer que la demande intérieure du pays ne s'effondre pas, que les gens continuent à consommer. Donc, ils ont développé une série de mesures de soutien aux revenus. On peut penser à la fameuse prestation canadienne d'urgence, PCU, ou aux bonifications à l'assurance-emploi. Et les effets sur la pauvreté de ce soutien sont là. On a observé en 2020-2021 au Canada une réduction très marquée du taux de pauvreté et des inégalités de revenus. Ça démontre qu'on a tout à fait la capacité d'agir sur la distribution des ressources dans la société. Ce n'est qu'une question de choix politique, dit Geoffroy Boucher. Parmi ces choix, certains nuisent plus que d'autres à l'abolition de la pauvreté. C'est le cas de la vision court-termiste des gouvernements. Toutes sortes d'incitatifs font que nos décideurs sont portés à accorder plus de poids au court terme qu'au long terme, amorce l'analyste. Les cycles électoraux très courts en sont un exemple type. Un biais démocratique qui prive la société de ses capacités à faire face à des défis de taille, comme les inégalités ou encore les changements climatiques et le vieillissement de la population. Ce sont des enjeux qui s'inscrivent dans le long terme, qui nécessitent des investissements maintenant pour des effets positifs dans 10 ou 15 années. Nos décideurs ont de la difficulté à évoluer dans ce type de contexte, observe M. Boucher. Des inégalités de richesse exacerbées. Au Québec, 100% des revenus liés à un salaire sont imposables. Ce n'est pas le cas des revenus du capital, revenus immobiliers, assurance-vie, actions, etc., dont 50% seulement peuvent être déclarés pour imposition. Il y a un lien très fort à établir entre les inégalités économiques et le pouvoir, explique Geoffroy Boucher. La preuve avec la proposition du gouvernement fédéral au printemps dernier d'augmenter le taux d'imposition des revenus de capital à 67%, qui a provoqué le soulèvement de 0,13% de la population concernée par la mesure. Ces gens-là ont davantage de pouvoir et de moyens pour faire valoir leurs intérêts au détriment de la vaste population, observe l'économiste. Dans la foulée, le premier ministre Carney a annulé la mesure. Au Canada, 10% des plus riches possèdent 50% de la richesse, alors que les 40% moins nantis ne possèdent que 3% de la richesse. L'inégalité est là et encore plus exacerbée que celle sur le revenu, dit Geoffroy Boucher. On fait toutes sortes de reculs économiques en ce moment qui n'aident pas à faire face aux enjeux à long terme, s'inquiète l'expert pour qui l'un des leviers pour réduire les inégalités serait avant tout d'investir dans la qualité de nos services publics pour que tous aient accès aux soins de santé, à l'éducation, et surtout en petite enfance, là où beaucoup se joue. C'était « Québec a les moyens d'abolir les inégalités », un texte de Karine Bénézet de l'Itinéraire, paru le 24 janvier 2026 dans La Presse.
D'un puissant signal cosmique, vieux de 13 milliards d'années, un texte de Bénédicte Salvetat-Ré de l'Agence France-Presse, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. C'est un puissant flash venu du fond de l'univers qui nous renseigne sur son histoire. Le satellite franco-chinois SVOM a capté en mars 2025 un rare sursaut gamma lié à l'effondrement d'une étoile massive il y a quelque 13 milliards d'années. C'est excessivement rare puisque c'est le cinquième sursaut gamma le plus lointain jamais détecté et le plus précis en termes de la lumière qu'on a récoltée et des mesures qu'on a faites, se félicite auprès de l'AFP Bertrand Cordier, responsable scientifique du projet SVOM au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA. Lancée en juin 2024, la mission SVOM, Space-Based, Multiband Astronomical Variable Objects Monitor, a pour objectif de détecter et de localiser ces phénomènes cosmiques à la puissance monumentale. Les sursauts gamma se produisent généralement après l'explosion d'étoiles massives, plus de 20 fois la masse du Soleil, ou la fusion d'étoiles compactes. Ces bouffées de rayonnement d'une luminosité colossale peuvent dégager une énergie équivalente à plus d'un milliard de milliards de soleils. Ce sont les événements les plus énergétiques dans l'univers, explique l'astrophysicien qui a participé à deux études sur cette détection, publiées mardi dans Astronomy and Astrophysics, et dont il est respectivement premier auteur et co-auteur. Première génération d'étoiles. Étudier les sursauts gamma permet d'avancer sur des questions de physique fondamentale, comme tenter de comprendre comment on est capable de déployer une telle quantité d'énergie, quels sont les mécanismes en jeu. Dans les sursauts gamma, la matière est accélérée à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ce sont des conditions physiques qu'on ne peut pas reproduire sur Terre, mais qu'on peut observer dans les laboratoires cosmiques, ajoute-t-il. Ces signaux extrêmement lumineux servent aussi de sondes, éclairant toute la matière qu'ils traversent avant de nous arriver. Il faut vraiment avoir un flash de cette intensité pour arriver à mesurer les conditions physiques de l'univers à des âges très lointains. C'est le seul moyen de le faire de manière directe, souligne le chercheur. Le 14 mars 2025, quand ils ont reçu l'alerte d'une détection sur leur téléphone portable, les jeunes scientifiques d'astreinte de la mission SVOM ont assez vite compris qu'ils avaient affaire à un événement d'ampleur. Et ils ont convaincu d'autres télescopes de détourner leurs objectifs pour les braquer sur la zone d'émission. Après un sursaut gamma de quelques dizaines de secondes, l'objet qui en est à l'origine émet, pendant plus longtemps mais avec une intensité décroissante, dans d'autres longueurs d'onde. Rayons X, optiques, infrarouges, radio. Cette contrepartie est cruciale pour localiser précisément la source et étudier sa nature. Verdict, le signal a été émis à un moment où l'univers était très jeune, à peine 700 millions d'années. Les photons qui sont venus imprégner nos instruments ont voyagé pendant 13 milliards d'années, raconte M. Cordier. C'est l'âge des premières générations d'étoiles, formées après le Big Bang, à partir d'une matière primitive essentiellement composée d'hélium et surtout d'hydrogène. Ces étoiles ont produit les premiers éléments lourds, fer, carbone, oxygène, jouant un rôle fondamental dans l'évolution de l'univers. Pour donner un sursaut de ce type-là, l'étoile qui s'est effondrée devait faire peut-être une centaine de masses solaires, ajoute l'astrophysicien, qui espère que SVOM permettra de détecter peut-être un ou deux événements de ce type par an. La difficulté, c'est d'arriver à tout enchaîner dans la chaîne d'observation des contreparties. Après l'alerte du 14 mars, il s'est écoulé 17 heures avant que le Very Large Telescope, VLT, au Chili, ne se détourne. Pendant ce temps, l'intensité a décru. L'objectif, c'est d'être encore plus efficace. Si on arrive plus tôt, alors on aura des meilleures données, dit le responsable. C'était Détection d'un puissant signal cosmique vieux de 13 milliards d'années, un texte de Bénédicte Salvetare de l'agence France Presse, paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le skido inventé, puis métamorphosé. Un texte de Marc Tison, paru le 5 octobre 2025 dans la presse. En 1965, la motoneige skido, inventée 6 ans plus tôt, évoquait encore une vieille locomotive diesel avec son ventre mou et son phare planté haut sous le pare-brise. En 1966, le nouveau modèle, dont les ventes allaient exploser, montrait l'emblématique capot jaune finement arrondi et liséré de noir. Le designer Anselm Sam, la pointe, était intervenu. En 1959, l'invention de Joseph Armand Bombardier était révolutionnaire et ingénieuse, mais rudimentaire. Le succès viendrait, quoique d'abord à petite vitesse. S'il n'est pas le premier à commercialiser un traîneau motorisé, le prototype qu'il met timidement sur le marché en 1959 est la première motoneige digne de ce nom, suffisamment légère et puissante pour filer sur la neige. L'aboutissement d'une longue et patiente obsession. Inventeur dès sa jeunesse. 60 ans avant Bombardier Aéronautique, Joseph Armand avait déjà fabriqué un appareil à hélice. Né à Valcourt en 1907, Il a montré dès l'enfance une prodigieuse créativité mécanique mise à profit dans l'atelier bien équipé de la ferme familiale. À peine âgé de 15 ans, il retape un vieux moteur de Ford Model T, l'installe sur un châssis articulé muni de 4 patins et ajoute une hélice en bois de sa conception. Il parcourt bruyamment 1 kilomètre sur la neige avant que son père lui ordonne de démonter le dangereux engin, ce qui ne l'empêche pas de le photographier fièrement. Après un apprentissage en mécanique et électricité automobile, Joseph Armand ouvre son propre garage à Valcourt en 1926. L'isolement des petites localités en hiver l'incite à s'attaquer au problème de la mobilité sur la neige. Après des années d'expérimentation plus ou moins hasardeuses, sa première autoneige à chenilles, étrange scarabée hivernale, entre en production durant l'hiver 1936-1937. 20 ans plus tard, l'entreprise de Valcourt réalise un chiffre d'affaires annuel de 3,5 millions avec une série d'engins utilitaires chenillés. Rêver petit. Mais le prolifique inventeur rêvait depuis longtemps d'offrir aux travailleurs du Grand Nord un petit véhicule hivernal à la manière d'un traîneau à chien sans chien. La difficulté résidait dans le poids de l'appareil, qui devait flotter sur la neige plutôt que de s'y enfoncer. Son fils Germain, un autre protagoniste méconnu, met en place l'une des pièces maîtresses du casse-tête avec la chenille sans fin en caoutchouc qu'il conçoit et brevette en 1957. Joseph Armand bricole d'abord une baignoire sur chenille dans laquelle on s'assoit, puis ouvre les parois pour en faire un engin qu'on chevauche. Son 4e prototype, testé en 1958, montre la configuration que prendront toutes les motoneiges du monde avant 10 ans. 2 skis orientables à l'aide d'un guidon, un petit moteur recouvert d'un capot à l'avant, une large chenille protégée par un châssis muni d'un long siège rembourré. Ski Dog. 2 motoneiges sont construites au printemps 1959. La production reprend à la fin de l'année après des tests menés en Ontario. D'abord nommés Ski Dog, les motoneiges adoptent la marque Skidoo dès la 5e unité, vraisemblablement en raison d'une coquille à l'impression d'un document promotionnel. Nous avons le document en question et il est vrai que la lettre G est déformée et ressemble davantage à un O, indique Raphaël Bourgeois, co-directeur du musée de l'ingéniosité Joseph Armand Bombardier. Les petits véhicules sont peints d'un jaune légèrement orangé dont l'origine est incertaine. La production totalise 225 engins pour la saison 1959-1960, puis 250 l'année suivante. En 1962-63, l'entreprise construit 2103 appareils. Durant la saison 1963-64, au moment où Joseph Armand Bombardier meurt d'un cancer à seulement 56 ans, la production a atteint 8352 unités. La saison suivante, 13 259 motoneiges modèle 1965 sortent de l'usine. Mais le Skidoo, dont le nom s'inscrit en rouge dans un triangle bordé d'une espèce de moustache de ventilation, ressemble plus à un bulldog pâteau qu'à un lévrier des neiges. C'est ici qu'intervient Anselme Lapointe, une famille talentueuse. La famille d'Anselme Lapointe n'était pas banale non plus. Son père, Arthur Joseph Lapointe, chef de gare à Price dans le Bas-Saint-Laurent, avait combattu en France durant la Première Guerre mondiale avant d'être élu député fédéral. Parmi les 6 frères et sœurs d'Anselme, on compte le criminaliste réputé Gabriel Lapointe et l'auteur-compositeur-comédien Jean Lapointe, qui a lui aussi laissé quelques souvenirs. Né à Price en 1933, Anselme étudie à l'École des beaux-arts de Québec, où il obtient en 1954 un diplôme en arts décoratifs. Il ouvre bientôt son propre bureau de design intérieur à Québec. Or, le futur président de Bombardier, Laurent Baudouin, qui avait épousé Claire, la fille du fondateur, était comptable agréé dans la même ville. À l'époque, Lapointe et associés faisaient faire ses impôts par le cabinet comptable de Laurent Baudouin, raconte Raphaël Bourgeois en entretien téléphonique. Laurent Baudouin rejoint Bombardier en 1963 et en devient le directeur général l'année suivante à la mort de son beau-père. Il confie alors à Anselme Lapointe l'aménagement de sa nouvelle résidence de Valcourt. Anselme saisit l'occasion pour lui faire délicatement connaître son opinion sur le style des motoneiges de Bombardier. « J'étais devenu suffisamment familier avec Laurent Baudouin pour lui dire que ses bibites étaient laides et qu'elles gagneraient à être redessinées », a-t-il confié au journal La Tribune en 1996. « Il m'a mis au défi, je l'ai relevé ». En décembre 1964, Laurent Baudouin met une motoneige à sa disposition chez le concessionnaire Bombardier de Québec. Sur ce châssis, il dessine et confectionne avec 2 techniciens un prototype qu'il présente à la direction de Bombardier en mars 1965 à l'auberge des gouverneurs de Québec. Un skidoo bleu. Le designer propose un engin aux lignes arrondies, mais bien définies, doté d'un capot plus aérodynamique et d'un pare-brise mieux intégré. Inspiré par le cabriolet anglais Lotus Elan, il le dote d'un phare escamotable. Le nom Skidoo s'inscrit dans la bande qui ceint le bas de caisse. Petit détail, hormis cette ceinture, l'engin est entièrement bleu méditerranée, une couleur de la palette Chrysler de 1965. Pour lui, le jaune n'était pas synonyme de plaisir, c'était la voirie et les autobus scolaires, relate Raphaël Bourgeois. L'initiative colorée a été brisée dans l'œuf, dont le jaune est demeuré. Mais pour l'essentiel, la proposition d'Anselme a été retenue. C'est un tournant dans l'histoire de la compagnie au niveau du design, affirme M. Bourgeois. Le modèle affiné de 1966 lance l'âge d'or de la motoneige, dit-il. Des cimes et des vallées. En 1965-1966, l'usine produit 22 433 motoneiges au nouveau design, soit près de 10 000 appareils de plus que l'année précédente. La production double la saison suivante pour atteindre 44 421 engins. Bombardier a fait naître une industrie et les concurrents se ruent sur le marché. Au tournant des années 1970, on compte près de 130 manufacturiers en Amérique du Nord, dont une vingtaine au Québec. La production de Bombardier atteint un sommet avec 211 927 motoneiges en 1970-1971. À la fin des années 1970, il ne demeure plus que 6 grands constructeurs à l'échelle mondiale. La surproduction et la crise pétrolière de 1973 ont causé l'hécatombe. Au travers de ces montagnes russes et enneigées, Anselme Lapointe, devenu directeur du design chez Bombardier, contribuera à la conception des motoneiges jusqu'en 1993. En 1984, Design Canada lui a décerné son prix d'excellence pour ses modèles SS25 et Safari. Il s'est éteint en 1999. De père en fils. L'entreprise fondée par Joseph Armand s'est délestée en 2003 de sa division des véhicules récréatifs devenue BRP. BRP, qui a élargi sa gamme aux petits engins nautiques et terrestres, se maintient toujours fermement parmi les 4 derniers grands manufacturiers de motoneige. Le fils d'Anselme, le designer industriel Denis Lapointe, avait commencé à travailler chez Bombardier en 1985. Nommé chef de la direction du design chez BRP en 2022, il dirige une équipe de quelques 135 concepteurs d'une vingtaine de nationalités différentes, réparties dans 3 centres de design et d'innovation. Avec sa première intervention en 1965, son père avait tracé la piste. C'était « Le skidoo inventé, puis métamorphosé », un texte de Marc Tison, paru le 5 octobre 2025 dans la presse.